Vous écoutez
RMC.
Il est 23h15 en France, il est 17h15 ici dans le studio américain de l'After. Daniel Riolo, Maxime Chano sont là. Pierre Barrieux, directeur de la performance à la Fédé canadienne, sera avec nous dans quelques minutes. Démarrons un peu notre bilan du premier tour. Alors je vais quand même faire un petit point continent par continent, c'est toujours intéressant.
Oui.
L'Europe a qualifié 13 nations sur 16. Donc on va dire
et que les équipes qui sont restées sur le j'allais dire les équipes qui sont restées sur le carreau sont pas terribles, mais il y en a qui se sont qualifiés qui sont pas terribles non plus.
La Turquie franchement a produit du jeu, mais c'est terminé dernier.
Mmh. Bah, c'était quand même contre le cours du jeu hein, leurs deux défaites.
L'Écosse.
C'était logique.
L'Écosse, ça correspond, comme disait tout à l'heure Max, ça correspond à leur histoire. En Écosse, il reste encore à l'image de Gemmills 74 contre les Pays-Bas.
Il parle encore de l'Écosse-Brésil de 1998.
Que ce soit un pays un peu berceau du foot, Alex Ferguson, certaines équipes des années 70, oui, ok. Mais que le foot soit une vraie passion là-bas, oui, mais au niveau international, il y a plus rien.
Et puis si on regarde bien individuellement parlant, cette équipe, il y a des joueurs qui jouent en Ligue 1 en Angleterre. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus le top européen, hein, les Gosses.
Et puis le troisième pays européen éliminé, c'est la République tchèque, qui a terminé dernier de sa poule. Oui. Là aussi, t'es plus dans la génération.
Effectivement, on n'est pas dans une.
Nedved,
Kohler, Rosicky.
Bon, voilà pour les trois européens.
Et Yann Kohler, là. Ouais. C'est le géant.
Il était toujours content. Ah non, en colère. Kohler, pardon.
Ouf.
Yann Kohler, qui joue à Cannes, hein, qui a joué à Cannes, en national.
Alors, l'AM Sud fait 5 sur 6. Le seul pays éliminé, c'est l'Uruguay.
Oui.
Voilà.
Une vraie déception d'ailleurs, non? Quand tu regardes par rapport au statut, par rapport aux joueurs.
On en a parlé hier. Honnêtement, pour moi, il y a largement la place de se qualifier, mais quand ton gardien il te plante comme ça, dans deux matchs, deux énormes boulettes qui te coûtent à chaque fois un but. T'es saigné, quoi.
Il y avait
la place pour se qualifier.
Entre Bielsa et ses joueurs.
Ça empêchait pas de se qualifier quand même.
Il y a un autre critère quand même qu'il faut regarder. T'as les résultats bruts, mais t'as le classement dans les groupes. C'est-à-dire que l'AM Sud, ils ont quand même trois nations sur six qui finissent premières. C'est Brésil, Argentine, Colombie.
Je pense que le vainqueur en zone géographique, c'est l'AM Sud. Dans ce qu'ils réussissent à produire globalement.
Devant l'Europe.
L'Europe, il y a une quantité d'équipes qui est grande et qui te permet d'accumuler les performances. Ouais. Mais l'AM Sud qui te fait trois premières places, Colombie, Brésil.
Sachant que Brésil, Maroc, c'était quand même
Argentine.
Serré.
Oui, après,
et Colombie, ça joue sur le dernier match.
Non, mais ils sont dans des standards assez classiques pour eux.
Oui,
l'AM Sud, voilà, continent du foot, il se passe toujours quelque chose. Brésil, Argentine sont toujours là, plus un. Après, le Mexique n'est pas dans cette zone.
Non.
Mais culturellement, je pourrais presque, moi, les mettre dans cette zone-là. Et pareil, eux, ils répondent toujours présents. Il y a toujours le même engouement, le même enthousiasme dans ces équipes-là. Il suffit que le groupe soit un peu plus facile et ça passe tranquille. Et le Mexique, c'est passé tranquille.
Alors, et l'Afrique,
on sait pourquoi le Mexique est dans la CONCACAF.
Parce que c'est l'Amérique centrale.
Panama, Costa Rica.
Tu passes de l'Amérique centrale au Canada. On va dire que culturellement, on est d'accord que c'est pas vraiment la même
histoire. Oui, mais t'allais pas faire une confédération internationale États-Unis et Canada.
Ils en parlent, d'ailleurs. Ils en parlent,
En termes de football,
l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord.
Ah oui, de faire une confédération américaine globale.
Ça serait plus logique, parce que c'est vrai que les États-Unis, quand il s'agit de faire la Gold Cup avec le Panama et l'Honduras, c'est pas fun pour eux.
Ils invitent le Qatar, donc.
Comment tu fais une seule zone unique?
Fusionnes la CONMEBOL et la CONCACAF pour faire
une grande Copa américaine.
Comme une UEFA américaine, quoi.
Ok, comment tu vas faire pour les pots de vin et toutes ces choses-là?
Peut-être que, déjà, les Américains vont prendre le pouvoir, parce que c'est comme ça que ça se passe.
Parce que, on a vu dans le passé dans la zone CONCACAF en magouille. Et ce qu'on a vu dans la zone AM Sud avec Grondona et ses amis. Je pense que là, ça va être la foire. Être la foire au pot de vin. Là.
Le plus gros magouilleur historiquement à la CONCACAF, c'est un Américain.
Oui, bien sûr.
Rappelez.
Jack Warner là.
Jack Warner, lui, c'est le Trinidad et Tobago. Il y a un autre gars, je vais retrouver son nom, un Américain avec une Chuck Blazer.
Ah voilà, Chuck Blazer, qui a la barbe là. Celui qui avait la barbe.
Chuck Blazer,
oh mon Dieu.
Pris d'oseille sous le manteau.
Il a explosé tellement il croque.
Qui louait un appartement dans la Trump Tower à New York pour ses chats.
Ah.
Histoire vraie, hein.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. Ah voilà, tu vois. Ah non, mais autour de la FIFA, de toute façon.
Mais t'es pote avec Platini.
C'est quelque chose. Il y a quelque chose qui est. Le croquage est institutionnel au sein de la FIFA. Ça a été inventé à l'époque par Joao Avalanche et c'est resté.
Et Chuck Blazer.
Les traditions ont été respectées.
Chuck Blazer dans le FIFA Gate, c'est lui qui a tout balancé au FBI.
C'est souvent
on lui a dit
le repenti de la mafia.
Regardez son appart avec les chats dedans, c'est
voilà. Il est décédé depuis.
Quand tu fais le repenti comme ça, tu peux toujours négocier à la liberté un appart.
Ça me rappelle un film.
Bon, alors venons-en à l'Afrique, parce que l'Afrique qualifie 9 équipes sur 10. Alors, c'est un peu en trompe-l'œil, parce que 9 équipes sur 10, tu dis, ah ouais, c'est impressionnant, c'est la première fois que l'Afrique a 10 équipes, ils ont qualifié 9, il n'y a que la Tunisie qui a été nulle.
Pour moi, le vrai bilan se fera en 8e.
Mais l'Afrique, quand même, il n'y a pas un pays africain qui finit premier de sa poule, par exemple. Vous voyez, ils sont principalement dans les meilleurs 3e.
Moi, je vais te dire, plutôt que ces bilans chiffrés, on devrait plutôt regarder les prestations et parler ballon.
J'y arrive après.
Alors, continue le chiffrer et après on en parlera dans le vif du sujet.
9 sur 10 pour les Africains, 2 sur 9 pour l'Asie. Là, par contre, l'Asie, c'est la cata. Il n'y a que l'Australie qui est déjà. Bon, l'Australie est rattachée à la Confédération Asiatique parce qu'ils voulaient, eux, plus de matchs avec des bonnes équipes plutôt que jouer toujours contre la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a le Japon et l'Australie. Et puis l'Océanie, 0 sur 1, c'est la Nouvelle-Zélande. Voilà le bilan chiffré.
Oui, ça semble logique au vu des prestations de cette zone. Donc après, c'est bon, t'as terminé avec les chiffres.
Bah après, juste moi pour.
Alors
pour
si t'as terminé avec les chiffres, maintenant parlons des prestations.
Juste par rapport aux chiffres, très rapidement, parce que tu parles de l'Afrique, mais t'as la Côte d'Ivoire qui finit à égalité avec l'Allemagne, et t'as aussi le Maroc qui finit à égalité avec le Brésil. Oui. Donc à peu de choses près. Daniel a loué un petit peu le bilan sud-américain. Je veux dire, ça pourrait être différent si.
Mais 9 sur 10, c'est super pour l'Afrique.
Puisque t'as commencé par ça, si on regarde le continent africain qui réalise effectivement une belle performance en chiffres, en termes de jeu, j'ai envie de mettre en avant la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Sénégal s'est bien racheté sur son dernier match, mais bon, contre l'Irak, c'était quand même pas compliqué d'aller mettre une valise. J'ai envie de te dire, tout reste à démontrer pour moi. C'est pour ça que j'attends les huitièmes de finale. Parce qu'en termes de jeu, que ce soit RDC, Ghana,
l'Égypte, c'est pas génial,
Afrique du Sud qu'on a vu là, Égypte, c'est très pauvre. On a eu beaucoup d'équipes qui, à part faire un bloc bas, essayaient de contrer compliqué. L'Algérie nous a livré certains matchs très riches en émotions hier soir, pour se qualifier, ça a été compliqué. On peut pas dire qu'en termes de jeu, on se soit beaucoup régalé. Donc oui, je mets en avant Côte d'Ivoire, Maroc. Le reste, montrez-moi encore des choses, s'il vous plaît, les amis, parce que là, je suis pas tombé de ma chaise, loin de là. Mais globalement, si on élargit, la liste, c'est pour ça que j'insiste quasiment tous les jours en disant, il faut vraiment qu'on avance dans cette Coupe du Monde pour commencer à avoir un petit peu de jeu, pour avoir une idée de ce qui s'y passe vraiment. Parce que là, on a brassé, comme tu pouvais te qualifier, vu que les groupes étaient assez faibles, tu sentais les équipes qui allaient se qualifier. Il y en a beaucoup qui ont levé le pied, qui ont fait beaucoup tourner, qui ont essayé d'économiser leurs forces pour la suite. Même dans les équipes européennes, Portugal, pas convaincu. Espagne, pas convaincu. Je parle des grosses nations qui en gros devait me permettre de m'emballer un peu, quoi. Ouais. Allemagne, pas convaincu. Angleterre, Belgique. J'ai fini par être déçu.
Belgique, pareil.
Belgique, je les mettais même pas dans ce groupe-là.
En tout cas, favori.
Donc, dans mon groupe fort européen, je ne sors que la France.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Je ne sors que la France. Alors que je m'attendais en phase de poule à sortir au minimum l'Espagne et l'Angleterre.
T'as un chapeau 1, France, Argentine, en fait.
Ça termine comme ça.
Je parle de la zone Europe.
Après Daniel,
les autres, j'ai été déçu.
Daniel, j'ai été d'expérience pour savoir que dans ce genre de compétition, tu as des équipes qui montent en puissance. On l'a vu, l'équipe de France, maintes et maintes fois.
C'est pour ça, là, on fait le bilan là maintenant. Oui. Évidemment, je fais le bilan. Évidemment que les équipes peuvent très bien progresser. Il n'y a pas de problème. Je l'espère pour le bien de cette compétition. Parce que pour l'instant, on a vu une tonne de matchs. Mais je suis pas sûr qu'on puisse citer plus de 5 matchs qui nous ont renversés. Hein. Attention, hein, quand même. Hein. Ouais, la quantité, c'est pas la qualité.
Mais c'est dû à quoi ça alors? Est-ce que tu penses que c'est dû justement au nouveau format de la Coupe du Monde?
Au Qatar ou en Russie, c'est pareil. Après le premier tour, t'avais pas 5 matchs qui t'avaient renversé.
Mais Gilbert, tu n'avais pas la qualification potentielle des meilleurs troisièmes. En fait, c'est ça qui tue aujourd'hui.
Ah oui, parce que ça te permet de lever le pied, de calculer.
Mais le match Algérie-Autriche d'hier soir, qui est un super match.
Mais là, tu le cites parce que c'est lui qu'on a en mémoire.
un match pour la troisième place.
Et ouais, puis il y avait un enjeu, il y avait un enjeu pour aller récupérer cette place, mais le Cap-Vert, la manière dont jouait le Cap-Vert, attention, hein, crédit au Cap-Vert qui se sont qualifiés, c'est historique, c'est super, mais avec un bloc bas comme ils sont positionnés, honnêtement, c'est contre-productif pour le football. Alors, je sais que je vais me faire tomber dessus, c'est la très belle histoire de cette Coupe du Monde, mais aujourd'hui, quand tu vois un Cap-Vert qui met son bloc bas à 10 mètres de son but, excuse-moi, pour moi, ça nivelle, je te l'ai déjà dit encore une fois, mais ça fait baisser le niveau de cette compétition qui est censée être la compétition de l'élite. C'était censé voir des super affiches. Aujourd'hui, Daniel a entièrement raison. Si je me suis enjaillé, excuse-moi du terme, sur 4 ou 5 matchs depuis le début de cette compétition, c'est le maximum. Hein. Et c'est pas grâce aux petites équipes.
Alors après, j'ai fait le bilan
Europe.
Le
football, il a changé.
Plutôt négatif. Âme Sud. Alors après, États-Unis, je me suis emballé. Je pense qu'ils iront en quart, comme je l'avais prévu. Mais très honnêtement, eux aussi ont levé le pied très vite. Après leurs deux victoires. Même le deuxième match, ils ont joué une mi-temps. Donc en fait, ils ont joué un match et demi. Amérique du Sud, Colombie a été très rapidement mon chouchou. C'est toujours mon chouchou. Et l'Argentine, valeur sûre.
Ouais.
Le Brésil... Ils sont là où j'attendais, évidemment qu'ils devaient sortir du groupe. Ils m'ont pas emballé, mais ils sont à leur place et je pense qu'ils iront également en quart parce que ça devrait passer contre le Japon. Et après, je sais pas, le huitième, ils sont Brésil. Faudra voir contre qui.
Tout à dire. Ouais, moi, j'ai
mais ça va aller en huitième sans problème. Et après, bah, c'est fini, quoi.
Ouais. Après c'est fini. France, je suis d'accord avec
c'est
toi.
C'est fini, donc il y a pas. Je comprends pourquoi le sentiment général est d'avoir peur de l'équipe de France, parce que l'équipe de France a fait forte impression.
Dans on va en parler tout à l'heure, parce que le monde entier fait de la France le méga favori.
De toute façon, on en faisait un favori avant. Pourquoi veux-tu qu'on ait changé?
Dans un groupe qui était très difficile, non, hein, avec la Norvège qui a roulé sur tout le monde en qualification.
Avant, tout le monde faisait pas de la France.
Moi, je faisais France, Espagne et
l'Espagne qu'on annonçait comme le méga favori.
Après l'Espagne, elle a commencé cette compétition sans Yamal, avec un Nico Williams qui a la tête à l'envers. Je suis convaincu que l'Espagne va monter en puissance.
Le Brésil affrontera le vainqueur de Côte d'Ivoire-Norvège.
Ouais.
Et après, ils ont la perspective d'un quart contre l'Angleterre, éventuellement.
Le huitième du Brésil, quoi, contre le vainqueur. Le Norvège au complet, pas l'équipe B qu'on a vue contre la France, ou Côte d'Ivoire, le vainqueur des deux contre le Brésil. J'y vais pas les yeux fermés pour le Brésil.
Là, moi, où j'ai été très très déçu, c'est le Portugal.
Très déçu.
J'ai eu la chance de les commenter hier. Honnêtement, j'avais presque l'impression qu'ils calculaient pour terminer second de leur groupe. Vraiment.
Écoute, moi, il y a un autre truc qu'il va falloir m'expliquer. C'est comment Ronaldo peut faire toutes les minutes de cette première phase.
Il en a parlé aujourd'hui.
Si là on n'est pas dans une histoire, dans l'histoire de cette Coupe du Monde, une histoire folle. Ouais. Bon, qui a été révélé, hein, comme quoi Roberto Martinez, il va devenir son entraîneur après. Donc bon, il y a on va dire du deal sous table, mais c'est inadmissible. Ouais. Dire comment à 41 ans tu peux faire ça alors que partout ailleurs les autres ont tourné. Là, on est dans une folie en fait là.
Ouais. Il plombe complètement.
Et ça, je sais pas si ça va pas finir par leur coûter très très cher aux Portugais.